Soyez les bienvenus dans cette troisième séance. Je suis en compagnie d'Alain Pagès et de Jean-Sébastien Mac, que je salue. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous inscrire dans le forum et d'y laisser vos questions qui seront transmises à notre invité à la fin de sa communication. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Yves Guérin. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
Quelques mots sur Jean-Yves. Jean-Yves Guérin a enseigné aux universités de Paris 10 Nanterre, Marne-la-Vallée et Paris 3, où il est aujourd'hui professeur émérite. Il a consacré trois livres à Camus, « Portrait de l'artiste en citoyen »,« Albert Camus, littérature et politique »,« Voix et voix de la révolte chez Albert Camus ». Il a été le maître d'œuvre de trois dictionnaires, celui des pièces françaises du XXe siècle, ceux consacrés à Albert Camus et à Eugène Ionesco. Parmi ses nombreux autres essais, au nombre de sept, je retiendrai les plus récents. Un ouvrage sur Cyrano de Bergerac, publié aux presses de la Sorbonne Nouvelle en 2018, et en 2020, deux ouvrages, Littérature du politique de Paul Claudel à Jules Roy et Nouveau théâtre et politique. Enfin, il prépare un ouvrage en ce moment sur la construction du répertoire théâtral en France. Nous sommes très heureux, cher Jean-Yves, de vous recevoir au séminaire Zola aujourd'hui pour écouter votre communication qui a pour titre « Zola et le répertoire théâtral contemporain ». Merci à vous et je vous donne la parole.
Bonjour à toutes et à tous et merci aux collègues du séminaire qui me font l'honneur de venir. Je viens ici avec l'humilité du non-spécialiste. Je ne suis pas zolien, je n'ai pas travaillé sur le naturalisme, bien qu'il me soit arrivé dans une autre vie professionnelle de faire cours sur Germinal. Je vais donc vous parler de la contribution de Zola à la connaissance du répertoire théâtral. Et je mets en exergue de mon propos ce mot de Zola: j'ai la mauvaise ou la bonne habitude de dire la vérité. On sait que pour Zola, le 19e siècle est le siècle du roman. Cela ne l'a pas empêché de s'intéresser au théâtre, d'écrire des pièces et d'être critique dramatique. Le naturalisme devait aussi s'imposer sur la scène. Il a constitué deux recueils à partir de chroniques qu'il avait données dans Le Bien public, puis Le Voltaire, entre 1876 et 1880. Toutes n'ont pas été retenues, celles antérieures, publiées au Globe et à l'Avenir national, et celles qui ont été écartées figurent en tant que causeries dramatiques dans les tomes 1 et 3 des œuvres complètes au cercle du livre précieux et dans le tome 9 de Nouveau Monde Édition sous le titre de Revue dramatique et littéraire. Le naturalisme au théâtre est forme un diptyque. Il n'a plus commenté le premier livre que le second. Celui-ci à Paris en 1881 chez Charpentier. Il a été régulièrement réédité entre 1889 et 1928 chez divers éditeurs. Il figure dans le tome 11, des œuvres complètes au cercle du livre précieux, et dans le tome 10 de celles publiées par Nouveau Monde Édition. Les quelques coupes sont signalées dans cette édition, elles sont peu significatives. Au moment même où paraissent les deux livres, déferlent ce qu'Yves Chevrel appelle la première lame de fond naturaliste. Coïncide en effet Nana, Les soirées de Médan, le roman expérimental et aussi Maison de poupée d'Ibsen. L'horizon d'attente commence à se transformer, Zola y contribue par ses écrits. 6 ans plus tard, Antoine fonde le Théâtre Libre. Avant d'étudier nos auteurs dramatiques, il convient de brosser un rapide état du théâtre français vers 1880. Le décret du 6 janvier 1864 a remodelé le paysage comme l'avait fait le décret du 13 janvier 1791. il a activé la formation d'un vaste secteur privé qui, avec un large éventail de genres, capte une bonne partie du public bourgeois. Au même moment, le baron Haussmann transforme le paysage urbain de la capitale. Il y avait les théâtres historiques, la Comédie-Française, l'Odéon, l'Opéra, l'Opéra comique, les quatre scènes officielles, les théâtres du Palais Royal, de la Porte Saint-Martin, de la Renaissance, de l'Ambigu, du Gymnase. Des salles dont le public était populaire sont rasées, de nouvelles ont poussé comme des champignons. Théâtre des nouveautés, théâtre des arts, théâtre du vaudeville, théâtre du Châtelet, etc. Si le XVIIIe siècle avait été le siècle du théâtre, écrit Christophe Charles, le XIXe fut celui des théâtres. Les nouvelles salles, comme les anciennes, sont à l'italienne. Elles sont soumises à la seule loi de l'offre et de la demande. Elles doivent fournir de l'utile et de l'agréable aux nouveaux riches comme aux anciens, aux étrangers et aux provinciaux que le train amène à Paris. Ce sera d'une part des comédies sérieuses, de l'autre des opérettes et des vaudevilles. Une industrie du divertissement est en place. De cela, il est question non pas dans nos auteurs dramatiques, mais dans Nana, et plus rapidement dans la Curée. Le spectacle théâtral, comme le livre, est entré dans le marché. L'économie libérale impose un régime de production. La fête impériale est un moyen de contrôle et de séduction. Paris est à la fois Théâtropolis et Cabotinville, pour citer deux mots d'Émile Bergerat. Tout cela se trouve, je le répète, dans le premier chapitre de Nana. La jeune République n'a pas changé la donne. Zola ne lui reproche-t-il pas sa haine de la littérature? Elle abandonne le spectacle vivant au jeu du marché, elle laisse végéter les quatre théâtres qu'elle subventionne de façon pingre. Elle y a placé des hommes politiquement sûrs. La Comédie française reprend les succès du théâtre privé. L'Odéon souffre de sa situation. C'est un conservatoire des drames et des pièces historiques. Le pouvoir maintient la censure, mais en use peu. Ses adversaires n'ont pas enrôlé de dramaturge. Selon Albert Soubi, on aurait joué 7300 pièces à Paris entre 1871 et 1892, principalement des pièces nouvelles. La surproduction n'est pas un gage de qualité. Les historiens du théâtre pointent une crise de la création. Plus clairvoyant que Francisque Sarcey et consorts, Zola est de ceux qui en ont eu conscience avant qu'elle soit patente. Il ne se fie pas, comme l'écrit Michel Autran, que la machine théâtrale tourne sans histoire. Et c'est ce que confirment les chiffres des recettes. Ils croissent de 1864 à 1883, comme l'a montré Charles. Zola, dans ce livre, comme dans l'autre, nous donne un état du théâtre parisien à la fin des années 1870, en même temps qu'il plaide pour le théâtre naturaliste. Il ne dialogue pas et polémique encore moins avec les autorités critiques de son temps, Francisque Sarcey, Jean-Jacques Weiss, Auguste Vitu. Il nomme peu le premier. Et c'est là une différence entre ce recueil et le naturalisme au théâtre. Sous le titre de polémique, il y réunit ses controverses avec Sarcey, Henri Fouquier et Henri de la Pommeraye. Théophile Gautier et Jules Janin, les grands critiques de la génération précédente, sont morts. Sarcey règne au temps, Paul de Saint-Victor a pris la suite de Gautier au Moniteur universel et Théodore de Banville officie au National. Jules Lemaître et Émile Faguet ne sont pas encore apparus. Le débat manque de débattants ou de débatteurs. Il y a bien aussi Alphonse Daudet au Journal officiel de la République, mais il est le plus souvent en accord avec Zola. Celui-ci n'insère pas non plus, contrairement à Sarcey, les courriers qu'il reçoit de confrères. Il ne prétend pas, comme le dernier, être la voix de la foule. En revanche, il répond au Goncourt, théoricien défaitiste, dont Edmond vient de réunir le théâtre complet. Cet article aurait pu trouver place dans l'autre recueil. De même, il consacre un de ses articles à la préface de Dumas fils à l'étrangère, mais parce que celui-ci l'avait attaqué en tant que chef de file du naturalisme. Citation, il ne voit pas tout et il laisse parfois ses fauteuils à des informateurs où il se sert de comptes rendus antérieurs aux siens, estime Henri Mitterrand. On sait qu'Henri Séard fournit à Zola des notes prises à des spectacles. Mais c'est qu'on joue beaucoup de pièces et que la chronique de Zola est hebdomadaire, comme souvent à l'époque, et fort longue. D'où une sélection. Le critique aurait dû recenser les dernières pièces d'Adolphe Belot, Édouard Cadol, Maurice Montaigu et Daniel Dar. Mais ce n'est pas sur ces minoras, ces minima, mais sur les majoras de l'époque que la postérité juge et jugera un critique. Autant on emporte le vin. Les articles retenus sont ordonnés par auteur. C'est aussi le choix opéré par Adolphe Brisson pour les chroniques de Francisque Sarcey. Ce sera encore celui de François Mauriac quand il rassemble ses critiques de la revue hebdomadaire dans les années 1920. Jules Lemaître, lui, préférera un ordre chronologique. Quoi qu'il en soit, le chroniqueur du Bien public et du Voltaire doit composer avec ce qu'il trouve. Des livres, des spectacles. S'il consacre tant de pages à Dumas fils et à Émile Augier, c'est que ce sont les auteurs contemporains les plus joués à l'époque. Entre 1877 et 1880, donc c'est la période des chroniques rassemblées dans nos auteurs dramatiques, la Comédie française a affiché 206 pièces du premier, Dumas fils, et 251 du second, Augier, contre 50 de Corneille, 85 de Racine, mais tout de même 365 de Molière. On peut enfin remarquer que le no du titre restreint le corpus étudié au seul théâtre français. Mais à l'époque, on ne jouait pratiquement que lui sur les scènes parisiennes. La timide ouverture s'effectue dans les années 1880 à l'Odéon d'abord, quand Paul Porel en devient l'administrateur en 1884 et y affiche plusieurs pièces de Shakespeare. Puis au Théâtre Libre, Antoine monte La puissance des ténèbres de Tolstoï en 1888, Les Revenants d'Ipsadis, Le Canard sauvage en 1891. Zola s'inscrit dans la critique des écrivains, des maîtres aurait dit Thibaudet. Tout comme Théophile Gautier, Barbet d'Orvilly et Alphonse Daudet. Francisque Sarcey, Auguste Vitu, Paul de Saint-Victor, eux sont des critiques professionnels, à savoir des journalistes qui souvent sont passés par l'École normale supérieure. Les réflexions sur la critique, c'est dans le naturalisme au théâtre qu'on les trouve, pas dans nos auteurs dramatiques. Zola est parfois un critique, je dirais, à l'ancienne. Ses articles sont moins souvent des résumés de la fable, ce qu'attendaient les lecteurs, que des analyses psychologiques, sociologiques, voire dramaturgiques. Il s'oblige à raconter brièvement, en fait longuement, l'intrigue des Fourchambault, de la comtesse Romani, de l'étrangère. Ce n'est pas le cas quand il s'attaque à des pièces classiques, mais aussi à certaines pièces contemporaines. C'est un fait qu'il s'intéresse plus à la pièce qu'au spectacle. Il est un auteur qui commente l'œuvre d'autres auteurs. À la différence de Sarcey ou de Daudet, il fait en fait assez peu de place à la réalisation scénique, au jeu des acteurs et au décor. Chose étonnante pour qui a lu le naturalisme au théâtre. Et c'est là-dessus qu'il a fait porter les coupes. Il y a quelques exceptions intéressantes. Dans sa recension d'Hernani, il commente le jeu de Mounet-Sully, pour lequel il se montre très critique, de Worms, qu'il juge fait pour le drame naturaliste, et de Sarah Bernhardt. Mais c'est dans le naturalisme au théâtre qu'on retrouvera son opinion sur le plus illustre des monstres sacrés du théâtre, la grande Sarah. Maxime, dans La Curée, connaît son répertoire classique. Il trouve la tragédie assommante, mais il va voir Adélaïde Ristori, l'enfer. Au fond, les textes seuls restent. Les spectacles se perdent. C'est ce qu'on a pensé, jusqu'à ce qu'apparaisse un art de l'enregistrement et que soient captées les performances scéniques. Je n'ai pas trouvé le mot de mise en scène sous la plume de Zola, alors qu'il est lexicalisé depuis les années 1800 et que la critique l'utilise depuis les années 1830. Il ne commente aucune réalisation d'Émile Perrin. Les livres de ce dernier et celui de Louis Bec de Fouquier, il est vrai, sont postérieurs à 1880. On sait que Zola a eu des liens amicaux avec Antoine, mais c'est aussi plus tard. Le théâtre libre se situe dans la mouvance naturaliste et c'est par lui que s'effectue la rupture institutionnelle voulue par Zola. Mais ce dernier n'a rien écrit en sa faveur. Il ne s'en prend pas non plus au directeur de théâtre, comme l'ont fait Théophile Gautier, et avec plus de virulence encore, Henri Beck, Octave Mirbeau et Barbet d'Orvilly, féroces critiques des institutions qui reprochent à celles-ci d'avoir suivi le mauvais goût du public. Citation, ils étaient généraux, ils se sont fait soldats, ils ont suivi le gros de l'armée à laquelle ils ont obéi, ce sont des maquignons, des spéculateurs. Tout cela, c'est du Barbet d'Orvilly. Quand d'autres font du théâtre, ils font de l'argent. Zola se montre plus critique dans le naturalisme au théâtre. Dans nos auteurs dramatiques, il regrette seulement que la comédie française mette mal en valeur son répertoire tragique. Sans doute accorde-t-il un préjugé favorable à Jules Clarcy, républicain irréprochable, qui en est devenu l'administrateur général en 1878. Autre exception encore, quand dans le même article il évoque l'Odéon, devenu une succursale du Châtelet pendant l'exposition universelle, et reproche à Félix Duquesnel, qui a monté Balsamo, d'Alexandre Dumas, d'être, je cite, un entrepreneur de spectacle uniquement préoccupé du désir de remplir la caisse. Fin de citation. Il n'est pas le seul à contester sa politique fondée sur des scénographies et distributions luxueuses. Une reprise du Misanthrope à la Comédie française amène cette charge. Citation. Je vois Molière allant à la porte Saint-Martin avec le Misanthrope. Son quatrième acte tuerait sur le coup messieurs Ritt et La Rochelle, et les directeurs, qui croiraient à un attentat contre leur intelligence. Molière, comprenant qu'il s'est trompé de porte, pourrait frapper ensuite à l'Odéon. Et là, ce serait pis. Messieurs Duquesnel lui offrirait Monsieur Dumas pour collaborateur masqué, en lui faisant remarquer que sa pièce ne tient pas debout. C'est dans le naturalisme au théâtre que l'on trouve la réflexion de Zola sur les institutions. À la différence d'Edmond Goncourt, dont il commente la préface au théâtre complet des deux frères, à la différence de Barbey d'Orvilly ou encore d'Octave Mirbeau, il ne croit pas à une débâcle, la métaphore se trouve chez lui, qui conduirait à la mort du genre. Il croit au contraire possible une résurrection du théâtre. Si débâcle il y a, c'est celle du théâtre classique et du théâtre romantique. De la crise peut sortir un théâtre nouveau, un théâtre fondé sur la vérité. Zola, on le sait, compose avec soin ses recueils. L'ordre des chapitres dans nos auteurs dramatiques est le suivant. D'abord, les classiques, puis Victor Hugo, enfin, les auteurs contemporains. On reconnaît les trois grandes périodes du théâtre français dont il est question dans le naturalisme au théâtre. L'évolution s'effectue vers toujours plus de vérité. Cet ordre chronologique est celui qu'Émile Faguet adopte encore dans les cinq volumes de ses propos de théâtre. Mais chez ce dernier, Faguet, on va des majores vers les minores, des majoras vers les minoras. Les 17 auteurs de la deuxième moitié du XIXe siècle, choisis par Zola, dont trois tandems, sont rangés dans un ordre que l'on trouvera aléatoire. D'abord, les quatre auteurs les plus joués à l'époque, ceux qui occupent le terrain, Émile Augier, Alexandre Dumas fils, Victorien Sardou et Eugène Labiche, et à la fin, trois auteurs aujourd'hui encore considéré comme réaliste, Alphonse Daudet, les Goncourt, Erckmann Chatrian, entre des auteurs aussi différents que Georges Sand et Théodore de Banville, qu'on rangerait volontiers dans le théâtre d'art, et d'autres auteurs à succès, Meillac et Halévy, Edmond Gondinet, Édouard Peyron, Adolphe Denry, Théodore Barrière. Un fait mérite d'être signalé. Un historien du théâtre, dramaturge par ailleurs, un peu oublié, Edmond C., range tous ses auteurs parmi ceux qu'il appelle les précurseurs du réalisme au théâtre. Les grands absents du recueil composé par Émile Zola sont les auteurs récemment décédés, Eugène Scribe, Henri Murger, François Ponsard et Alexandre Dumas, père. Et c'est là une différence avec Barbet d'Orvilly qui impute à ses auteurs le délabrement du théâtre français. Nos auteurs dramatiques prend place dans la stratégie de Zola. Les chroniques lui servent de tribune. Il a besoin de modèles et de repoussoirs pour faire avancer l'idée d'un théâtre nouveau. Au terme d'une chronique consacrée à une pièce de Meillac et Halévy, où il n'a plus rien à dire, il reprend une idée souvent de fois formulée ailleurs. Je cite « Dans toute évolution, il y a au moins deux phases, la phase de démolition et la phase de reconstruction. Or, je l'ai dit, nous sommes à cette heure où, le terrain étant déblayé, il faut rebâtir. » Le premier chapitre porte sur les classiques. Ils forment le cœur du répertoire et rares sont les théoriciens qui les ont démolis. Il y eut certes Louis-Sébastien Mercier au XVIIIe siècle. Si Stendhal et Victor Hugo s'en sont pris à Racine, ils ont ménagé Molière. Quand Rousseau attaquait celui-ci, c'était pour des raisons éthiques. Il n'est plus question, 50 ans après, de reprendre les critiques portées par les romantiques contre les classiques. Zola n'a-t-il pas écrit dans le roman naturaliste « Nous voulons recommencer Phèdre ». Il est important que le naturalisme au théâtre s'inscrive dans une tradition. Elle est double, le théâtre classique et les Lumières. Dans les années 1930, Aragon ne procédera pas autrement avec le réalisme socialiste. Pour l'accommoder, il le situera dans le fil de Diderot, Balzac, Hugo et ce qui n'eût pas plu à Lukács de Zola. On connaît sa formule, réalisme socialiste ou romantisme révolutionnaire, deux noms d'une même chose, et ici se rejoignent le Zola de Germinal et le Hugo des Châtiments. Fin de citation. Zola ne fait pas une table rase, la débâcle du genre tient au respect de la ou des conventions, mot-clé du recueil par les auteurs. On ne s'étonnera pas que le XVIIIe siècle, pour lui, ce sont des romans, non des tragédies, des comédies ou des drames. Son Voltaire, c'est l'homme de l'affaire Calas, non l'auteur de Zaïre. Et quand dans une campagne il compare la Dame aux Camélias, Marion Delorme et Manon Lescaut, c'est pour donner la préférence au roman de l'abbé Prévost. Dans nos auteurs dramatiques, Zola constate que les classiques ont survécu aux éreintements dont ils avaient fait l'objet de la part des romantiques. Iphigénie, constate-t-il, produit plus d'effets que Ruy Blas. La formule du genre est assurément périmée, reste Corneille et Racine. On remarque qu'il évite de citer Voltaire, relégué dans le second ordre. Molière d'abord. Il est bon de remonter à Molière quand on a pris la lourde tâche de défendre la vérité et la liberté au théâtre. Fin de citation. Après avoir vu Le Misanthrope à la Comédie Française, Zola ironise. La pièce n'est pas bien faite et Molière n'a pas compris ce qu'est la scène à faire. N'imagine-t-il pas trois rencontres entre Célimène et Alceste? Une seule aurait suffi. Zola ici rejoint le jeune Musset. Citation de Zola. Si l'on donnait Le Misanthrope à un de nos vaudevillistes, il en ferait un petit acte délicieux. Et il poursuit. Quel drame superbe pourtant ce Misanthrope. Quelle langue sonore et ferme d'une précision admirable. Fin de citation. En tant que farce de la mésalliance, Georges Dandin, pour lui, vaut mieux que Mademoiselle de la Seyglière. On attribue la formule de pièce bien faite à Eugène Scribe. Elle a été pendant des années l'étalon de la valeur. Francisque Sarcey en est le plus illustre défenseur. L'œuvre théâtrale doit être composée selon des recettes éprouvées. L'action est un mécanisme habilement agencé, de l'exposition au dénouement, de façon à maintenir l'attention des spectateurs sans dérouter ceux-ci. Les rôles sont convenus, on sait d'emblée quels sont les personnages positifs et les personnages négatifs. Bref, tout est réglé, rien n'est dû au hasard. C'est là un contre-modèle. Zola parle d'un mécanisme parfaitement huilé. Ce qui compte, c'est la fabrication, l'arrangement. Et je cite ce mot fameux du roman expérimental. Je n'ai pas de goût pour l'horlogerie, j'en ai beaucoup pour la vérité. Ce mot trouve toute sa pertinence au théâtre, où la métaphore de l'horlogerie, comme celle de la mécanique et topique, est toujours péjorativement connotée. Sur ce point, Barbey d'Orville et Zola sont d'accord. De ce dernier avatar de la dramaturgie classique, on a pu dire que c'était un article de Paris destiné à l'exportation. À l'étranger, n'a-t-on pas souvent associé Sardou et Ibsen? Zola déplore que Scribe ait fait école. Il explique ainsi la défaveur dont les classiques ont pu être victimes. Citation, Molière n'entendait rien au théâtre. Je veux dire au théâtre tel qu'on le fabrique aujourd'hui, tel que les procédés de Scribe et de ses successeurs l'ont fait. Un auteur qui écrirait Horace se verrait envoyé à l'école de Scribe. Corneille n'est ni Sardou, ni Dumas fils. Lui aussi ne sait pas ce qu'est la scène à faire. Il entasse au contraire les scènes à ne pas faire. La notion de scène à faire est généralement attribuée à Francisque Sarcey, que confrère que Zola ne cite pas ici, le lecteur aura rectifié lui. Le sujet et la dramaturgie la rendent nécessaire. Citation de Zola, le public boue sur les banquettes. Il veut de l'action, de l'action, de l'action. Et Zola met au crédit de Meillac et Halévy d'avoir fait voler en éclats ce qu'il appelle le code de Scribe et ce que Barbey d'Orville, lui, appelle le scribisme. Que faire des classiques? Zola propose de les extraire du musée des chefs-d'œuvre où on les a enfermés. Bref, de les revisiter. Citation. Certains critiques professent qu'il y a des chefs-d'œuvre consacrés par le temps auxquels il est puéril et inutile de toucher. Je crois, au contraire, qu'il est d'un intérêt très vif de remettre à 50 ans de distance les grandes œuvres en question, de les soumettre à un examen attentif, de les juger dans le nouvel ère de la postérité, au point de vue des conquêtes historiques accomplies et des méthodes d'analyse créées. Un public peu lettré, note-t-il, s'est passionné pour Iphigénie à l'Odéon. La tragédie classique est supposée froide, mais elle a survécu aux victoires romantiques de 1830. Citation. Je doute même que Ruy Blas, joué à l'Odéon en matinée, produise la même émotion qu'Iphigénie. Bref, Les drames romantiques, pour Zola, ont vieilli plus mal que les tragédies classiques. Mais, écrit-il ailleurs, il n'est pas question de retourner à la tragédie. C'est une formule morte. C'était l'opinion de Théophile Gautier, que je cite. Elle est, quoi qu'on dise, une formule usée, abolie. Cela n'empêche pas les chefs-d'œuvre d'être des chefs-d'œuvre, mais leur place est dans les musées. Les sujets de la comédie classique, en revanche, peuvent être repris. Il suffit d'en changer le cadre, les mœurs, la forme. On pouvait attendre de Zola qu'il rattache la tragédie à une société aristocratique, comme le font divers historiens et théoriciens, dont George Steiner. Il n'en fait rien. En 1880, les drames historiques d'Alexandre Dumas sont en train de sortir du répertoire, joués comme les pièces de Casimir de la Vigne. Quand il se joue encore à l'Odéon, c'est devant des publics clairsemés. La bataille entre romantique et classique s'est depuis longtemps terminée, sans vainqueur ni vaincu, ou plutôt, comme dans la fable de La Fontaine, le vainqueur, c'est un troisième larron, l'école du bon sens. Le premier auteur de son siècle, pour Zola, est Victor Hugo, dont plusieurs drames ont été réaffichés après la chute du régime impérial. Le dernier grand dramaturge vivant a cessé de faire jouer de nouvelles pièces. Il incarne le romantisme. Il en est le burgrave. Dans la décennie 1870-1880, malgré le triomphe d'Hernani et les reprises de Marion Delorme, Ruy Blas et Le Roi s'amuse, Hugo est moins joué qu'Augier et Dumas-Fils, dont plusieurs pièces sont données chaque année aussi bien dans les deux théâtres officiels que dans les salles privées. Le Théâtre en liberté de Hugo n'est publié qu'en 1886, un an après sa mort. Il ne trouvera sa place au répertoire qu'au début du siècle suivant. La Jeune République exhale surtout le poète et le romancier. Pour le dire autrement, ce n'est pas l'auteur d'Hernani et de Ruy Blas qu'elle va faire reposer au Panthéon, mais celui des châtiments et des misérables. On connaît le procès intenté au drame romantique dans le naturalisme au théâtre. Je n'y reviendrai pas. Ce procès se poursuit dans nos auteurs dramatiques. Cette fois, Zola s'appuie sur des pièces précises, en l'occurrence de Victor Hugo. Aucun article retenu n'est consacré à Musset, Alexandre Dumas et Vigny, faute que le critique ait eu un spectacle à commenter. Mais il en a consacré un nostalgique et très élogieux au premier, Musset, que l'on trouve dans les documents littéraires, au tome 10 des œuvres complètes. L'auteur dont ne badine pas avec l'amour est devenu classique. Il est vivant, écrit Zola. Les deux autres, Dumas et Vigny, sont en train de sortir du répertoire joué où ils étaient entrés dans les années 1830. Quand Zola revoit Hernani en 1879, il avoue sa désillusion. Même dans une mise en scène spectaculaire d'Émile Perrin, la pièce, selon lui, fait peu d'effet. D'où ce jugement. Le théâtre de Victor Hugo est fait pour la lecture. Invraisemblance, enflure lyrique. C'est que, comme le dira George Steiner, le lyrisme, qu'il passe ou non par le vers, entrave la peinture de la réalité. Zola ne conçoit pas la possibilité d'une tragédie en prose. Büchner l'a écrite en 1837, mais la traduction française de Wojciech ne paraît qu'en 1953. Citation de Zola, il s'agit d'arriver à la plus grande somme possible d'effets, quels que soient les moyens employés. Le drame romantique est devenu assurément aussi ennuyeux que la tragédie. Nous ne nous intéressons pas du tout à ces gens-là. Fin de citation. On reconnaît l'argument de Beaumarchais contre la tragédie. Il demeure que Verdi a été un grand auteur tragique. On jouait beaucoup ses opéras à Paris. Il ne semble pas que Zola en ait vu, et en tout cas qu'il en ait parlé. Revenons à Hernani. Le public, certes, applaudit la pièce. La claque de ce que Zola appelle la queue romantique était bien sûr ravie. Mais il y a une autre explication, je cite, « On salue dans Victor Hugo le grand patriote, le grand républicain. » Fin de citation. Parce qu'il est encore vivant, parce qu'il est une icône du régime, il est difficile de le critiquer. Zola ne s'interdit pas de le faire, mais il s'en prend surtout à ses sectateurs, aux officiants d'un culte. Il ironise quand, pour le cinquantenaire d'Hernani, on couronne le buste de son auteur sur la scène de la Comédie-Française. Il brocarde Catulle Mendès, devenu dévot de l'auteur. Citation, des sectaires veulent arrêter la littérature française romantiste. Il faut mettre, conclut-il, Hugo à côté de Corneille et de Molière. Citation, les drames du poète sont du bien mauvais théâtre, drapés dans la bien belle poésie. Ruy Blas, en revanche, restera, écrit-il au répertoire, à côté du Cid et d'Andromaque. Certes, le personnage éponyme est un fantoche, il est naïf, immature, citation, il a vécu comme un enfant, il meurt comme un imbécile, et ajoute Zola, Monsieur Sardou ne ferait pas mieux. L'intrigue est extravagante, bourrée d'invraisemblance, mais l'écriture poétique des tirades et des dialogues est superbe. Citation, quelle brusque et prodigieuse fanfare dans la langue que ces vers de Victor Hugo. Mais on le sait, pour Zola, le lyrisme et la vérité sont antinomiques. L'auteur de Ruy Blas est un prodigieux rhétoricien de l'idéal. Après avoir relu la préface de Cromwell, Zola écrit, c'est terriblement confus. Les contradictions abonde. Les classifications et les démonstrations sont d'un poète qui se satisfait avec des phrases. Le réquisitoire n'en épargne rien. La représentation de l'histoire du théâtre, la notion de grotesque, la conception du réel, de la nature et de la vérité, la conception du décor, le goût du panache. Le théoricien de théâtre naturaliste se montre impitoyable pour celui du romantisme. Il oppose deux formes et non, comme il le faudrait, deux méthodes. Citation, Victor Hugo a eu l'intuition du vaste mouvement naturaliste, mais il en a retardé l'avènement. Il n'était qu'un poète, pas un observateur. De son siècle, je cite, il est le poète lyrique, il n'en est ni le philosophe, ni le penseur, ni le savant, et j'ajouterai, c'est Zola qui parle, ni le romancier, ni le dramaturge. C'est du côté des romanciers réalistes, de Balzac, de Flaubert, de Goncourt, que les rénovateurs de la scène doivent chercher des maîtres et des modèles. Les romanciers sont bien, le mot de Zola est célèbre, les princes littéraires du temps. Près de 40 ans séparent les deux auteurs, le plus jeune a besoin de tuer le père, l'ancêtre, de s'attaquer à la statue du commandeur. Zola a contribué à la minoration de Hugo, dramaturge, qui a duré jusqu'au début du XXe siècle. Victor Hugo, vers 1880, est, pour citer un mot de Maurice Agulon, un roi sans couronne de la République. Il serait trop simple de ranger les hugophiles, les pro-romantiques à gauche, et les hugophobes, les anti-romantiques à droite. En 1830, l'un des plus virulents détracteurs d'Hernani ne fut-il pas le libéral, bientôt républicain, Armand Carrel. Barbet d'Orvilly, romantique de droite, si l'on veut, défend Hugo contre Zola dans un article où il éreinte Nana. Après son maître, Ferdinand Brunetière, Gustave Lançon, dans son Histoire littéraire de la France, reprend les analyses et parfois les mots mêmes de Zola. Il fait plus de cas du poète lyrique et épique que du dramaturge et même du romancier. Les pages qu'il consacre à l'homme et à l'œuvre accumulent les critiques. Une invention pauvre, des caractères élémentaires, des actions enfantines, des invraisemblances, une inintelligence de la vérité et de la vie, des intrigues gauches. Les deux grandes figures de la gauche républicaine que la République fera reposer au Panthéon se trouvent dans deux camps opposés. La politique les rapproche, l'esthétique théâtrale les rend adversaires. Le premier écrit du second que malgré son tapage, il restait, c'est une citation, l'enfant révolté de la tragédie, comme elle il mentait, comme elle il costumait les faits et les personnages, comme elle il avait ses règles, ses poncifs, ses effets, en somme, il n'y avait qu'une rhétorique de plus au théâtre. C'est ce que pense aujourd'hui un historien du théâtre comme Michel Autran. Aussi, poursuit Zola, le drame romantique ne devait-il pas avoir le long règne de la tragédie? Après avoir fait sa besogne révolutionnaire, il s'essouffla, s'épuisa tout d'un coup. Dans nos auteurs dramatiques, il présente les drames romantiques comme des tragédies épileptiques. Ils sont aussi ennuyeux que les tragédies. Les romantiques ont échoué. On n'est plus en 1830, leur temps s'est achevé. Ils n'ont pas fourni un contre-modèle aux classicistes, seulement une variante. Ils doivent céder la place aux naturalistes, c'est, on sait, une des idées maîtresses du naturalisme moderne. Dans une lettre à Flaubert, datée de 1878, Zola déclare, après avoir lu des pièces d'Augier, Dumas et Labiche, qu'il y a une bien belle place à prendre à côté d'eux, sinon au-dessus d'eux. Voyons ce qu'il dit de ses auteurs dans le recueil. Je cite, « Monsieur Augier est à cette heure le maître de notre scène française. » Fin de citation. À cela deux raisons qui n'en sont qu'une. Il n'ose pas brader le public, son public. Il obéit aux nécessités des plans. Les Lionnes pauvres, une des meilleures pièces du répertoire moderne, selon Zola, fait pas de figure à côté de Madame Bovary. Dans les Fourchambault, la peinture est molle et l'observation superficielle. Ces pièces parlent de la bourgeoisie qui a gagné son bras de fer avec l'aristocratie, de la famille, de l'adultère, de l'argent, hyperthème chez lui, à un public bourgeois qu'il déculpabilise et dont il conforte l'éthos. La critique sociale d'Augier trouve ses limites. Chacun doit rester à sa place et les rebelles se rangent. Charles Moncelet abonde dans le sens de Barbey-Lorville. Il est jeune, il se porte bien, il a le fauteuil de Boileau, je ne lui souhaite qu'un peu plus d'invention. Lançon s'égrée à ce pur bourgeois libéral d'avoir attaqué le parti clérical dans le fils de Giboyer et les jésuites dans Lions et Renards, mais c'est le moment où le régime impérial se heurte dit parti. Bref, Augier n'est ni Molière, auquel il s'est parfois identifié, mais dont il ne possède pas le sens du comique, ni Marivaux, ni Musset, ni Labiche. À sa mort, Noël et Stulig écrivent « Émile Augier restera une des gloires de notre théâtre contemporain ». Zola se situe entre les uns et les autres. Le critique se montre beaucoup plus sévère pour d'autres auteurs. Citation. « Je n'aime guère le talent de Monsieur Alexandre Dumas fils », écrit-il d'emblée. C'est un écrivain extrêmement surfait, de style médiocre et de conception rapetissée par les plus étranges théories. J'estime que la postérité lui sera dure. On l'a mis sur un piédestal trop. Rien n'échappe à la sévérité de Zola. Citation. Il ne peut inventer une figure sans tout de suite en faire un type général. La thèse arrive aussitôt, il argumente et il prêche. Dumas fils garde ses sujets parce qu'il est prisonnier de ses obsessions, si bien un dramaturge du deuxième ordre. Et Zola lui oppose Balzac et Molière. Il préfère les raisonnements au document, son esprit de système joue contre son observation, c'est un auteur athée. Dumas fils aborde parfois hardiment des sujets sociétaux tels que la condition des femmes, l'institution du divorce, les enfants naturels, le déclassement. Mais sa propension au long prêche sentencieux le dessert. Émile Zola voit en lui, je cite, un des ouvriers les plus puissants du naturalisme, cachotant entre bourgeoisie comme cette prétendue morale qui s'achève généralement en serment. Voilà le secret des succès de M. Dumas. Il sait où gratter la foule. Il reste de plein pied avec les spectateurs, connaissant son métier. M. Dumas devait forcément devenir l'idole de notre public parisien, qui a trouvé en lui l'écrivain de génie qu'il peut comprendre et discuter. C'est à l'aune de ses propres conceptions que Zola critique la comédie sérieuse. Il ne nie pas que s'y manifeste une poussée réaliste, mais il a réalisme et réalisme. L'observation chez Dumas est insuffisante. Il n'a pas le sens du vrai, le flair de la vie. Et Zola traque les invraisemblances, et pas seulement chez Victor Hugo. Ainsi, dans Les Danichefs, la Russie de Dumas fils n'a rien à voir à celle que montre Tourguenieff dans ses romans. La pièce serait injouable à Moscou. Deuxième argument, la question sociale est devenue centrale dans la République consolidée. Elle appelle des réformes radicales que les républicains opportunistes ne se hâtent pas de mettre en chantier. Dumas fils en reste à des questions sociétales. Zola ajoute qu'il sait jouer avec la presse et attiser l'attente avant la première, là et peut-être, pour nous, sa modernité. Zola appartient à la génération de Victorien Sardou. C'est avec lui qu'il se montre le plus dur. On l'avait surnommé le Napoléon de l'art dramatique. Le premier article commence ainsi. J'entends faire à M. Sardou le reproche de ne point se modifier, de commencer éternellement la même pièce, taillée sur le même patron. Pourquoi se modifierait-il ? Il a une formule qui a réussi. Il est trop ami du succès pour changer de cette formule tant que le public ne s'en lassera pas. Le dit public n'attend pas des chefs-d'œuvre. C'est oublier que cet auteur, Sardou, s'est essayé à tous les genres, du vaudeville à la pièce historique, des pattes de mouche à l'affaire des poisons. J'y reviendrai. Comme Barbey d'Orvilly, Zola reconnaît à Sardou la science des planches, son flair. Le mot revient plusieurs fois. Pour trouver les sujets qui plairont. On le considérait de son temps comme l'héritier de Scribe, il en possédait l'habileté. Zola reconnaît également cette qualité à Meillac et à Lévy, à Edmond Godinet. C'est ce que d'autres appellent le métier. Mais rappelle-t-il encore, l'habileté ne suffit pas au théâtre et de pointer les invraisemblances. Les choses ne se passent pas dans la vie comme dans les pièces. Après avoir vu une reprise de Fernande, Zola trouve la fabrication adorable. Les actes pivotent, se contrarient et se balancent avec une élégance infinie. Fin de citation. Bref, cela fonctionne bien. Il reconnaît à Sardou l'art du mouvement, mais lui nie tout sens de la vérité. Il pose, certes, des problèmes de société, la condition des femmes, le divorce, mais de façon superficielle. Le capitaine fracasse du naturalisme, comme Barbey d'Orvilly appelle Zola, n'avait pas prévu que Sardou se renouvellerait et que la fortune de ses comédies ou drames historiques, genre qu'il jugeait démodé, serait plus durable. On a continué de jouer Madame Sangène, évidemment, mais aussi Fédora, Théodora, l'affaire des poisons et Tosca en France, et plus encore en Allemagne et Italie. Mais ces pièces ont été écrites postérieurement aux articles de Zola. Leur succès n'est donc pas seulement dû à la présence de Sarah Bernhardt. La comédie française s'est contentée de reprendre Patrie en 1931 et Madame Sangène en 1938 et 1951. L'Odéon, La Porte-Saint-Martin et L'Ambigu se sont montrés plus fidèles à un auteur qui leur avait procuré de belles recettes. Par ailleurs, le cinéma et la télévision ont conforté la survivance de ces pièces. Madame Sangène a suscité 10 films. La télévision française ne fut pas en reste. Bref, les comédies ont moins bien vieilli. Et en ce sens, Zola a bien vu. Ce répertoire contemporain a reçu le soutien du public. Zola le sait et le dit. Il ne faut pas oublier que ce joujou, comme il l'appelle, s'est bien vendu hors des frontières françaises. Le critique en est bien conscient. Citation. Il n'y a que nous qui, depuis un siècle, nous soyons mis à fabriquer des pièces d'exportation qui peuvent être jouées partout parce qu'elles n'ont justement pas d'accent et qu'elles ne sont que de jolies mécaniques bien construites. Des pièces bien faites, Christophe Charles ajoute, à bon marché et déjà bien rodées, de Scribe, Augier, Dumas-Fils et de Sardou surtout, auxquels on adjoindra Payron, Meillac et Alvi, Alexandre Bisson, se jouèrent un peu partout en Europe, de Berlin à Saint-Pétersbourg, de Londres à Prague, de Vienne à Oslo et même outre-Atlantique, aux États-Unis et au Brésil. Des auteurs comme Ibsen s'en souviennent. Sardou a misé sur le succès. Citation, il a tout, la fortune, la gloire, un public gorgé de friandises, une critique idolâtre, mais il n'a pas d'autre estime littéraire. En revanche, Zola tient la biche en haute estime. Citation. L'auteur appartient à la génération précédente, c'est chez lui qu'a trouvé refuge la vis comica dont les auteurs du bon sens ont perdu les secrets. On a vu que Molière, auquel il le compare, était bien traité. La biche est controversée en son temps. Théophile Gautier le tenait pour un vaudevilliste. On lui reprochait souvent d'avoir recouru à des aides, pratiques courantes à l'époque. La biche et compagnie, disait-on. Qu'avaient fait d'autres, Eugène Scribe et Alexandre Dumas. Et de fait, il a signé seul une infime minorité de ses pièces. Zola écarte cet argument. Cet auteur prolifique préféra confier ses comédies à des établissements privés, principalement le théâtre du Palais Royal, accessoirement ceux des variétés, du vaudeville et du gymnase. Deux pièces seulement, mineures, qui plus est, Moi et la cigale chez les fourmis, furent acceptées aux Français. Il dut remanier la première. La Troisième République ne lui tient pas rigueur d'avoir été un soutien du Second Empire. Zola non plus. Le dramaturge académicien a commencé à publier chez Calmann Lévy un théâtre complet, en fait seulement 57 pièces sur 170, que préface Augier. Sa carrière s'achève. Dans les deux articles repris dans Nos auteurs dramatiques, Zola s'exprime ici en lecteur des deux premiers volumes qui réunissent 12 pièces, non en spectateur. Citation, pendant 25 à 30 ans, il a été, donc Sardou, le rire de la France. Il a rimé sur notre gaieté. Peu d'auteurs ont eu cette gloire. C'est également l'opinion de Barbey d'Orvilliers, pour qui il est le seul talent gay qui soit maintenant, dans cette époque, ennuyé. Cela, Zola ajoute aussitôt, pour le regretter, qu'il représente le rire d'hier. Meillac et Alévi représentent le rire d'aujourd'hui. Les comédies-drames d'Augier et de Dumas-Fils avaient rompu avec une tradition, celle de la haute comédie. Citation, « Ne rit pas qui veut, au théâtre surtout. Le rire est un des dons les plus heureux et les plus rares qu'on puisse apporter, et rien n'est français comme le rire. Le génie national passe par Rabelais, par Molière, La Fontaine et Voltaire. Toute appréciation littéraire étant réservée, c'est déjà un bel éloge que de dire d'un auteur dramatique qu'il sait rire. La biche, c'était aussi bien faire rire le public, les spectateurs et les lecteurs. Il lui est revenu d'introduire le mouvement dans un genre où prévalait la situation. En ce sens, écrit Zola, il a bien créé un genre. Un simple quiproquo déclenche une cascade de péripéties. Les jeux de l'absurde font passer sa critique souvent impitoyable de la bourgeoisie. Zola n'insiste pas sur le fait que le bourgeois chez la biche est d'abord un imbécile conformiste. Monsieur Perrichon, les Ratinois et les Malingards, les quatre compères de la Ferté-sur-Jouarre sont plus bêtes que méchants. La question d'argent est le plus souvent secondaire. Un mot caractérise la biche, selon Zola, bonhomie. Sous la farce, il y a un drame, cette remarque semble préfigurer certaines mises en scène contemporaines. Labiche est un auteur dramatique au rire franc, à la verve abondante et épanouie, l'un des fantaisistes les plus sains que nous ayons eus. Le mot fantaisie revient sans cesse dans quelques pages. Zola s'étonne que le voyage de M. Perrichon ne soit pas au répertoire de la Comédie française. Cela se fera seulement en 1906. Depuis cette date, cette pièce est un joyau de notre vieux théâtre national. C'est ce que Zola écrit du personnage éponyme est d'une grande finesse. C'est un être bête, poltron, égoïste féroce, mais aussi un naïf et brave homme au fond. L'auteur de Pobou sait gré d'avoir façon à Labiche d'avoir à sa façon montré l'état de la bourgeoisie sous l'Empire et sous la République. Et il prend pour exemple Edgar et Sabonne. Le sujet est scabreux pour un public bien pensant, les amours ancillaires d'un fils de famille. Labiche l'a traité avec fantaisie, hélas, est son coup de maître. Avec cette notion de fantaisie, on est loin de la doxa naturaliste. Et Zola applique cette idée à un autre chef-d'œuvre, Un chapeau de paille d'Italie. Je le cite, « Dans notre vaudeville contemporain, on n'a encore rien imaginé de mieux d'une fantaisie plus folle ni plus large, d'un rire plus sain ni plus franc. Monsieur Labiche a excellé dans ce tour fantaisiste donné aux réalités les plus déplaisantes. C'est dans cet esprit que Gaston Bati montra la pièce bien plus tard. » Les auteurs dont il vient d'être question sont encore connus aujourd'hui. S'ils ne sont plus guère joués, sauf Labiche, l'université leur consacre des colloques et ils font l'objet de monographies. Ce n'est pas le cas d'Edmond Gondinet, Édouard Peyron, Théodore Barrière, Adolphe Denry, Octave Feuillet, au mieux, une rue porte leur nom à Paris. L'espace qui leur est consacré confirme la médiocrité des créations à cette époque. Zola aurait bien pu choisir d'autres noms, mais il leur accorde certains mérites. Zola sait qu'on lui a souvent reproché d'être hostile aux auteurs de son temps. Il s'en défend, il s'efforce à l'objectivité. Il n'a pas la plume féroce d'un Barbey d'Orvilly ou d'un Henri Beck. On aurait pu attendre plus de sévérité à l'égard d'Augier et d'Octave Feuillet, soutien du Second Empire. Plus étonnant encore, il applaudit Froufrou de Meillac et à Lévis, comme fait d'ailleurs Barbey d'Orvilly. Cette comédie a eu 103 représentations à la Comédie française entre 1892 et 1901. Quatre films en ont été tirés au XXe siècle. De Meillac et à Lévis, il écrit qu'ils sont des peintres très souples de la vie moderne. Leur fantaisie a créé un comique nouveau. Plus important est le fait qu'ils ont composé la Pigalle et Marie la Dépudente, deux pièces qui ne sont pas restées, en tableau, et que l'intrigue, les péripéties, bref, la mécanique, la charpente, sont devenues secondaires. Les duettistes se sont affranchis du code dramatique. Ils ont relégué l'intrigue au second plan. Et là, je le cite, nous voilà bien loin des pièces bien faites de Scribe. Et Zola applaudit avec les mêmes arguments le Nabab de Daubet et le Club de Gondinet et Cohen. Pièces en tableau, empreintes de fantaisie. On retrouve là une idée majeure du naturalisme au théâtre et l'influence de Diderot et de Mercier. L'intrigue, la charpente, pour reprendre un mot toujours connoté péjorativement chez Zola, et la vérité sont deux paradigmes contradictoires. L'article sur Adolphe Denry mérite un arrêt. Ce prolifique auteur de mélodrame et de drame historique appartient à l'ancienne génération. Zola ne signale pas les deux orphelines, son œuvre la plus connue. Le Charpentier a adapté plusieurs romans de Jules Verne à la scène. Le Tour du Monde en 80 jours est l'un des plus grands succès de l'époque et il lui procure de belles recettes. Avec lui, la féerie est devenue scientifique, notion aberrante pour cela. Ces deux mots hurlent d'être rapprochés. Et il tient Verne pour un aimable vulgarisateur. Il lui reproche sa conception et son utilisation abusive de la science. Mais il est significatif que l'essentiel de l'article porte sur les enfants du capitaine Grant, à l'adaptateur de ce roman d'aventure devenu drame féerique. Il reconnaît de l'habileté, on a vu plus haut, que ce n'est pas un compliment. Citation. L'ami Fritz a fait monter le naturalisme sur les plans. Cette adaptation d'un roman populaire d'Hermann Chatrian n'est pas, ou pas seulement, pour Zola une pièce patriotique, comme on le croit, c'est une pièce réaliste. Mieux, un des premiers essais sérieux du naturalisme au théâtre. C'est une matinée à la campagne et on y prépare un copieux repas alsacien qu'on mange sur la scène. La soupe aux choux est une preuve d'un souci viriste. Pas de scène à faire, pas de charpentage habile, les auteurs ne sont pas des hommes du métier. La pièce, entrée à la Comédie française en 1876, a connu un grand succès de bon aloi pour Zola, avec 116 représentations entre 1877 et 1881. Elle s'y est jouée jusqu'en 1948. Il en existe deux versions filmiques et même deux dramatiques diffusées en 1867 et en 2001. Zola, qu'on disait dogmatique, se montre nuancé à l'égard de Banville, auteur éloigné du réalisme s'il en fut, et de surcroît, grand admirateur de Victor Hugo, dont il a encensé Ruy Blas. Zola n'a pas grand-chose à dire sur Deidamia qu'on a joué à l'Odéon. Dans son compte-rendu des trois pièces publié par Charpentier en 1870, il reconnaît l'auteur du style et surtout la fantaisie, dont on a vu plus haut que ce pouvait être une qualité au théâtre. Cette fantaisie peut s'exprimer aussi bien dans la farce que dans la féerie. Et il conseille à Banville d'écrire des féeries. Monsieur Banville nie absolument toute réalité. Il est encore plus intolérant que moi, dans le sens opposé. Moi, j'admets quelques échappées en dehors du réel. Lui exige une envolée continue au-dessus des choses et des êtres en ce bain. Avec un écrivain de cette nature, l'entente est facile. Je l'admets et je l'aime. Il ne me dérange pas plus que les étoiles me gênent. Nous sommes trop loin l'un de l'autre. Il n'y a pas de rencontre possible lorsqu'on est à des points si opposés. Quand nous sommes intolérants tous les deux, nous pouvons nous tendre la main et nous comprendre. Fin de citation. Ces deux conceptions différentes de la modernité sont en jeu. Banville avait rendu sans acrimonie compte du théâtre de Zola. Les deux auteurs ont en commun, au moins, leur hostilité résolue à la pièce bien faite. J'en viens à quelques remarques. La triade classique est restée au répertoire. Les drames de Victor Hugo y ont trouvé leur place. Par ailleurs, on ne voit plus le naturalisme comme un contre-modèle au romantisme. Philippe Dufour souligne la continuité entre les romans de Victor Hugo et ceux de Zola. Que s'opère la rupture? Pour ce qui est des autres contemporains, les historiens du théâtre et la postérité corroborent les jugements du critique. Sauf Labiche, devenu classique, ils ont été rapidement relégués du premier ordre au second ordre, voire au troisième. Dumas fils a chuté son piédestal. Henri Meillat survit comme le librettiste de Georges Bizet et de Joseph Ossenbach. Un des mots qui revient le plus souvent sous la plume de Zola critique est celui du succès. Il dit en faire bon marché. Quand il rédige sa chronique, il a en mémoire l'accueil réservé au spectacle par le public très particulier de la première et les comptes rendus déjà parus dans les quotidiens. Des pièces sont promises au succès. La quête effrénée de celui-ci pousse les auteurs à se plier aux conventions, à user et abuser des ficelles et des recettes. C'est ce qu'il appelle le métier. Citation. L'expérience de la scène consiste à savoir mentir, à savoir donner au public ce qui lui plaît. C'est tout un métier. Fin de citation. Il a compris que le succès ne garantit aucunement la pérennité d'une œuvre. Il en est de mauvais et de bon aloi. Sa critique des facilités et des routines du théâtre commercial a gardé toute sa pertinence. La crise du théâtre était bien une crise de l'invention. Donc d'abord une crise des auteurs. L'institution théâtrale française des années 1870 était fermée aux évolutions de l'art et de la littérature. Si Zola a été un grand critique, c'est par la part qu'il a faite à l'analyse dans ses chroniques, non par ce que Bainville appelle son système et Beck ses théories magnifiques. Sartre, pour ne citer que lui, avait aussi les siennes, mais elles étaient disséminées en arrière fond de ses critiques. Pour Zola, rappelons-les, la poussée de la vie au théâtre, la représentation d'un coin de la société, appelle une observation rigoureuse et une peinture exacte. La mécanique de l'intrigue est secondaire et la composition en tableau doit s'imposer. Tels sont pour lui les nouveaux critères de la valeur. Il en a trouvé des promesses, des réalisations dans les pièces d'Erckmann-Chatrian, de Meillac et Halévy, de Gondinet. Mais la part faite à la fantaisie, comme l'intérêt pour la farce et la féerie, montre que Zola n'est pas enfermé dans le carcan de ses théories. Le palmarès qui émane de nos auteurs dramatiques n'est pas le nôtre. Les faits sont là. Les naturalistes français, devrait-on dire, n'ont pas opposé des œuvres fortes à l'école du bon sens. Seuls les Minorès du groupe, dont les cinq, ont proposé des pièces au théâtre libre. En 1880, Zola est l'un des seuls à percevoir que la crise de la création s'est enclenchée et dans le naturalisme au théâtre, il dit qu'il faut regarder du côté de l'Angleterre et de la Russie sans donner de nom. Peut-être pense-t-il à Gogol. Ibsen vient de publier Une maison de poupées. Zola et lui ne se sont jamais rencontrés ni écrits. L'institution théâtrale est peu ouverte vers l'étranger. C'est le moins qu'on puisse dire. Les Meininger se produisent un peu partout en Europe à partir de 1874. Ils ne sont jamais venus à Paris. Là, crise de la création trouve là une deuxième explication. Par la suite, Zola donne la priorité à l'écriture des Rougon-Macquart et n'intervient plus en tant que critique dramatique. Ce qu'il avait à dire, il l'avait dit. Il n'a confié à aucun journal ce qu'il a pensé des pièces montées par Antoine et Lugné-Paul, des revenants qu'il avait encouragé le premier à monter, de Mademoiselle Julie, des Corbeaux de Beck, des Mauvais Berchers de Mirbeau, de La Grève de Louise Michel, de Péléas et Mélisande, du Burroi, d'Un fil à la patte ou encore de Cyrano de Bergerac. Aurait-il eu des coups de cœur? La grande décennie au théâtre, ce sont les années 1890-1900 quand la crise de la mimésis s'amplifie. La correspondance générale contient de rares bribes sur le sujet. Les pièces que Zola écrit alors, L'attaque du moulin, Messidor, prennent des distances avec la doxa que lui-même a conçue. On note d'ailleurs la même évolution chez Ibsen et Hauptmann. Il n'est pas indifférent que dans une lettre à Strindberg, Zola émet des réserves à propos de Père. Zola, dont la clairvoyance est parfois immense, s'est ici magistralement trompé, écrit Marie-Claude Hubert. Le théâtre, avec la génération qui a suivi, s'est écarté du naturalisme pour retrouver un nouveau souffle. Zola n'a pas remis en cause la mimésis illusionniste. Les symbolistes, autres héritiers des romantiques, les expressionnistes, les surréalistes, le nouveau théâtre après 1950, bref, les modernes et les avant-gardes ont rejeté les conventions réalistes. Lorsque Georges Pitoès montre les pièces de Tchekhov à Genève, puis à Paris, c'est dans des décors stylisés, pour ne pas dire abstraits, il met à distance l'ultra-réalisme de son maître Stanislavski. La Sainte Russie surgit du texte, écrit Robert Kemp, après avoir vu Pitoès jouer la mouette. La postérité du naturalisme se trouve en France, chez Le premier Antoine est chez des auteurs comme Eugène Brieux, François de Purelle ou encore Octave Mirbeau. En Allemagne, elle est beaucoup plus brillante avec les titrants de Gerhard Hauptmann comme en Grande-Bretagne, avec la profession de Madame Warren de Bernard Shaw, créée l'année même de la mort de Zola. Je donnerai le mot de la fin à Rémy de Gourmont. Après tout, les œuvres dominent les théories.
Voilà, merci beaucoup pour cette peinture absolument passionnante que vous nous avez offerte du champ théâtral de la seconde moitié du XIXe siècle et aussi du début du XXe siècle à travers l'œil de Zola. Un Zola théoricien, un Zola critique, un Zola créateur, un Zola pris aussi dans les propres contradictions de son esthétique. Et j'ai été personnellement assez ébloui par la façon dont vous vous êtes approprié cette notion qui a l'air simple de répertoire. Souvent, quand on évoque un répertoire, on pense à une liste et vous avez fait tout autre chose que de dresser une liste. Vous avez d'abord extrait un corpus de l'ensemble de ces textes de Zola et ensuite vous les avez problématisés, vous les avez colorés sous l'angle des genres, des hiérarchies, des œuvres elles-mêmes, des institutions, des réceptions et des mises en scène, bien entendu. Donc, c'est une véritable méthodologie, en plus des contenus passionnants, c'est une méthodologie autour de la manière d'élaborer un répertoire en critique littéraire. Donc, merci à vous. J'aurais peut-être une ou deux questions à vous adresser, mais vous les traiterez comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Peut-être l'idée, au fond, du travail d'adaptation des œuvres de Zola au théâtre, qui serait une manière de penser la réciproque, c'est-à-dire la réception des adaptations de Zola, Le Ventre de Paris, L'Assommoir, de nombreuses pièces qui ont été écrites avec William Busnach, et de connaître un petit peu la façon dont vous pourriez penser l'articulation des deux, à la fois le Zola récepteur, évaluateur, critique, et le Zola qui, de manière active, propose dans le champ ses adaptations de ses romans. Voilà, ce serait par exemple une des questions que je pourrais vous poser. Je vais donner la parole tout de suite à Alain Pagès, à Jean-Sébastien Mack, qui vont pouvoir aussi réagir, et puis nous aurons les questions du public. Encore merci, Jean-Yves.
Donc, je prends la parole peut-être, Jean-Yves, pour dire aussi tout le plaisir que j'ai eu à t'écouter. C'était évidemment extraordinaire. Et c'est vrai que tu as eu cette qualité qui consiste à faire vivre des textes que très souvent on regarde comme simplement une énumération des pièces de théâtre et cette contextualisation de ces chroniques dramatiques, elle me semble extrêmement importante. Juste une réaction peut-être sur ce que tu dis, et c'est vraiment une seule question, une seule réaction, à propos du premier chapitre de Nana. Moi, je crois que tu as eu tout à fait raison de l'évoquer, ce premier chapitre. D'abord, rappelons qu'il paraît en feuilleton dans le journal même où Zola donne ses chroniques dramatiques, c'est-à-dire dans le Voltaire. Donc il y a une sorte de porosité, je crois, entre ce premier chapitre qui parle du théâtre et Zola qui parle du théâtre dans ses chroniques. Et je crois qu'on a tort souvent, quand on lit ce premier chapitre de Nana, de le considérer uniquement comme un prologue à ce roman Nana, en voyant que l'histoire de Nana ensuite est très différente, c'est l'histoire d'une courtisane. Je crois au contraire que ce premier chapitre est très lié au roman qui va suivre et qu'il raconte aussi un théâtre qui s'essouffle et qui est un théâtre que Zola critique, c'est-à-dire le théâtre d'Offenbach, l'opéra bouffe d'Offenbach. Et il y a dans Nana cette histoire qui consiste à nous dire que ce second empire qui meurt et se détruit à travers Nana qui en incarne la pourriture, c'est aussi le second empire d'un spectacle théâtral de l'opéra bouffe que Zola repousse avec toutes ses forces. Donc voilà un peu ce que moi j'entends dans le premier chapitre de Nana et que j'entends surtout après t'avoir écouté ce matin et qui me semble si important.
Je crois qu'il y a des liens intertextuels entre ce chapitre de Nana et les chroniques théâtrales, celles reprises dans nos auteurs dramatiques et celles aussi reprises dans le naturalisme au théâtre, hein, bien sûr. Il y a une étude à faire.
Jean-Sébastien, souhaites-tu prendre la parole?
Il n'y a pas de question pour l'instant sur le fil de discussion, donc
je vais alors. Alors, nous pouvons continuer les échanges parce que la communication était si riche qu'il y a bien des questions à vous poser, Jean-Yves. J'en aurai encore une ou deux et je donnerai la parole à Alain, Jean-Sébastien et aux questions qui vont arriver. Elle touche la question du genre de la chronique chez Zola. Il me semble que la chronique pourrait être envisagée à la fois comme un objet effectivement textuel au sein de la polémique, du positionnement de l'écrivain face au champ et dans un contexte évidemment qui est celui d'un positionnement littéraire et du naturalisme, du réalisme et du naturalisme. Mais est-ce que chez Zola, la chronique, qu'elle touche le théâtre ou qu'elle touche le roman, n'est pas aussi un laboratoire de forme? Et cette idée de déconstruire, entre guillemets, des œuvres médiocres ou des œuvres de second rang, n'est-il pas aussi une forme d'apprentissage et d'auto-formation de l'écrivain face, au fond, aux œuvres ratées, comme a pu dire un certain critique? Comment refaire les œuvres ratées? Et quand on lit ces chroniques de Zola, on a le sentiment que parfois il réécrit certaines œuvres à ficelle, à convention, en se disant « Tiens, si ça avait été moi, j'aurais poussé les choses dans ce sens ou dans un autre. » Je me souviens qu'à propos de Malot, il disait « Il ne suit pas suffisamment son parti pris. » C'est-à-dire, au fond, sa vision, sa perspective. Alors, y a-t-il, au fond, selon vous, dans la lecture que vous avez pu faire des chroniques, cette dimension expérimentale liée au plaisir de la déconstruction presque formaliste du poéticien Zola, dont on retrouve d'ailleurs le métalangage théâtral dans les dossiers préparatoires? C'est tout à fait étonnant de voir que le mot « charpente », qui est effectivement péjoratif, est un des mots les plus importants dans la scénarisation des ébauches zoliennes, avec le ventre de Paris, par exemple, au même titre que le mot « carcasse », « charpente », « canevas », voilà, et du modèle théâtral que l'on trouve aussi dans les dossiers préparatoires, à travers le mot « scène », par exemple, ou « découpage ». Qu'en pensez-vous?
Alors, bon, il y a une réflexion sur la chronique. Elle a été surtout faite avec des corpus du XXe siècle. Des écrivains comme Vialat, Morand, etc. Donc je ne sais pas s'il y a des travaux sur la chronique chez Zola et au XIXe siècle. Alors ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas un modèle unique de la chronique dramatique. Il y a une double contrainte. La contrainte de l'espace papier concédé par le journal et le temps de l'écriture. Zola, par ailleurs, a autre chose à faire. Il a des romans à écrire. Donc, j'ai un peu le sentiment que selon les pièces, il est plus inspiré. C'est clair qu'il est inspiré par la biche. Et il ne l'est pas par Dumas-Fils et Sardou. Alors, il y a parfois chez lui ce qu'on retrouvera plus tard chez un critique comme Paul Léoto, grand critique dramatique du XXe siècle. Il y a ce que lui inspire le spectacle, et puis après il y a autre chose. Hein, il part sur autre chose, et puis alors il délaye, mais c'est le cas de tous les chroniqueurs théâtraux. Hein, il délaye, alors il va délayer le récit de la pièce. Puis parfois pas du tout, il va se lancer dans des analyses, et les analyses, évidemment, et là on irait dans le sens de vos remarques, les analyses sont une sorte de laboratoire de réflexion, hein, où il y a une poétique à la fois de la critique, mais il y a une poétique de l'écriture théâtrale qui est en jeu. Donc, je dirais quand même, il n'y a pas un type unique de chronique dramatique chez lui. Mais c'est un laboratoire. Hein. Là, je reprends volontiers le mot.
Merci. Alain, Jean-Sébastien, si des questions sont arrivées.
Oui, moi, j'aurais un peu cette réaction. J'ai l'impression, en t'écoutant, effectivement, que on lit un Zola, enfin, on voit un Zola dans ses chroniques, un Zola qui est celui de l'ébauche, au fond, un homme passionné par l'intrigue, par le fil narratif, et qui ne coupe pas son activité de romancier de son activité d'analyste. Hein. Il me semble que la grande information que tu nous as donnée, qu'on n'avait pas saisie jusque-là, c'est que Zola analyse d'abord avant de regarder la mise en scène. Et ça, c'est passionnant, je crois. Alors peut-être que ça explique ensuite ce qu'évoquait à l'instant Olivier, non pas l'échec, mais le fait qu'il se retire lui-même quand il se lance dans l'expérience théâtrale, puisque l'expérience théâtrale, il va la faire, il aura du succès quand même, enfin il va la faire à travers Busnac, c'est Busnac qui lui permet d'avoir le grand succès de L'Assommoir, plus tard Nana par exemple, mais il est en retrait, hein. Il préface Busnac, mais il ne reconnaît pas ses textes auxquels pourtant il a beaucoup collaboré, car on le voit dans la correspondance, il a beaucoup travaillé avec Busnac. Et j'aurais peut-être une question à te poser sur le théâtre libre, tu l'as évoqué au début de ton exposé, Zola ensuite va revenir au théâtre, hein, après avoir d'une certaine façon était à distance à travers Busnac, en 1887, avec Antoine, avec le Théâtre Libre. Il est derrière la première représentation du Théâtre Libre, et je crois que ça le passionne. Hein. Ça le passionne, comme d'ailleurs ça passionne aussi Edmond Goncourt, qui trouve dans le Théâtre Libre un certain succès. Donc il y a un théâtre libre naturaliste qu'il faut souligner. Je voudrais avoir ton opinion sur cette aventure du Théâtre Libre.
Alors, bon... Zola est associé au théâtre libre, bon, par les adaptations, par le fait que les Médaniens alimentent, en tout cas, les premières années du théâtre libre. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas donné un grand texte de lancement sur le théâtre libre. Hein, il pouvait écrire, je sais pas, au Figaro ou ailleurs, 10 pages sur ce qu'apporte le théâtre libre. Il le fait pas. Hein, je sais pas pourquoi. Antoine a quand même eu beaucoup de difficultés. Hein, le théâtre libre se termine mal. Bon, Antoine rebondit. Ensuite, il va avoir son théâtre. Hein, enfin, il a eu plein de difficultés. Zola n'intervient pas en sa faveur. Hein, je ne comprends pas pourquoi. Je suis étonné. Alors que c'est vraiment... s'il y a un héritage de Zola, c'est d'abord le théâtre libre, dont aujourd'hui tout le monde reconnaît la place essentielle dans la rénovation de la scène française.
Oui, et c'est au Théâtre Libre que la mise en scène, tout d'un coup, Zola peut la méditer, enfin, cette mise en scène qu'il avait jusque-là écartée de sa réflexion.
Alors, je signale que le célèbre texte d'Antoine, Conversation sur la mise en scène, est publié en revue juste après la mort de Zola.
Peut-être une question.
Oui, j'aurais une
Jean-Sébastien.
Première question à retransmettre de la part de Céline Grenot, qui vous remercie pour cette belle conférence. Et donc, je lis sa question. On reconnaît généralement une dichotomie entre le manifeste, entre guillemets, zolien du théâtre naturaliste et les pièces créées par le romancier en collaboration ou pas, mais qui ne parviennent pas totalement à réaliser le programme des chroniques. Comment peut-on l'expliquer ?
Ce n'est pas le sujet sur lequel j'ai essayé de réfléchir avec vous. Je crois quand même que Zola donne la priorité au Rougon-Macq. Hein. Pour lui, c'est là qu'il va exceller, qu'il va modifier la conception du roman, il va donner des chefs-d'œuvre. Les autres activités sont secondaires. Et le passage de ces romans au théâtre, c'est important, mais je crois que l'écriture de nouveaux romans est quand même essentielle pour lui. Bon, comme l'a dit Alain Pagès, ces romans portés à la scène ont eu des fortunes variées. Il y a eu des succès, mais il y a eu aussi des échecs. Bon, il a eu l'adaptateur avec lequel il s'entendait, qui acceptait ce travail. Bon, l'adaptation de romans au théâtre, ce n'est pas essentiel dans une œuvre. Bon, il a travaillé avec Buznac. On regrette qu'il n'ait peut-être pas travaillé avec un meilleur adaptateur, mais c'est sans doute au XXe siècle que l'adaptation de romans deviendra un genre plus estimé. Alors, avec auto-adaptation, je pense que ce que Gide a fait avec les caves du Vatican, mais je pense aussi aux adaptations qu'a fait Gaston Bati. Mais je crois que il fallait une autre époque, des adaptations effectuées par des auteurs qui sont aussi des metteurs en scène. Je crois que les adaptations de L'Assommoir, Nana, etc., sont venues un peu tôt dans l'histoire du théâtre. Je signale qu'il y a eu, au XXe siècle, d'autres adaptations de romans de Zola par des metteurs en scène. Si vous consultez les archives du spectacle, vous trouverez une longue liste d'adaptation récente de romans.
Une deuxième question de Lionel Moussungou. Peut-on établir un rapport entre le théâtre naturaliste zolien et le théâtre de la cruauté selon Antonin Artaud?
Alors, à ma connaissance, Artaud n'a jamais invoqué le théâtre de Zola, ni le roman de Zola, Artaud est quelqu'un dont la culture est une culture théâtrale. Alors, qu'il y ait de la cruauté chez Zola, c'est certain, mais ce n'est pas la cruauté au sens d'Artaud. La cruauté au sens d'Artaud, on va la trouver dans les drames élisabétains, par exemple, ou dans les Cenci. Hein. Le mot cruauté est un mot un peu caoutchouc. Hein, et, le signifier varie selon les auteurs et selon les époques.
Voilà, je pense que Jean-Sébastien nous a donné pour l'instant les quelques questions qui étaient sur le forum. J'en aurai une supplémentaire, si je puis me permettre, Jean-Yves. C'est celle qui concerne le répertoire classique. Car il est vrai qu'au fond, dans ces ébauches et ces plans préparatoires que je connais un petit peu, je vois des références au théâtre classique assez fréquentes. J'en cite deux, Phèdre, à oui. propos de la curée, puisqu'il finit l'ébauche en disant « au fond, c'est une nouvelle Phèdre que je veux faire ». Bon, c'est une formule intéressante qui arrive à la fin de toute la réflexion scénaristique sous la forme d'une sorte d'analogie, en quelque sorte, concluante, donc Phèdre pour la tragédie, et puis pour la comédie, le Tartuffe, dans l'ébauche de La conquête de Plassans, puisqu'au fond, Faujas sera un nouveau Tartuffe. et on a le sentiment que ces références intertextuelles ont un effet de créativité dans l'ébauche. Ce sont des déclencheurs qui font avancer la pensée sur le mode de l'association d'idées, de l'analogie. Comment vous pourriez expliquer cette intrusion, en quelque sorte, du théâtre classique, du répertoire classique, dans le processus de la création romanesque? Est-ce qu'il y a des éléments à la fois de poétique et de vision philosophique de l'homme, peut-être, entre le répertoire classique et ce qui serait peut-être le classicisme de Zola, s'il y avait un classicisme de Zola?
Alors, le répertoire classique a survécu à la déferlante romantique de 1830. D'abord parce que la comédie française et dans une moindre part l'Odéon continue à jouer des pièces classiques et celles-ci tiennent une place très importante dans la formation donnée dans les collèges et lycées. Et un des effets de la bataille romantique, et ça a été très bien noté par des observateurs comme Théophile Gautier et Gérard Benerval, ça a été de renforcer la part de la triade Corneille, Racine, Molière dans la culture théâtrale. Les vraies victimes du romantisme, ce sont Voltaire et Crébillon pour la tragédie et les comédies du XVIIIe siècle, sauf Marivaux et Beaumarchais. Donc les classiques sont toujours là, on les joue, et il ne faut pas oublier que grâce à Rachel, les pièces de Corneille et de Racine ont trouvé toute une place. Il faut voir les comptes rendus que peut donner un Théophile Gautier de Phèdre ou Polyeucte quand Rachel est à l'affiche. Donc il est normal qu'un auteur soit nourri du corpus classique et que cela se retrouve quand il écrit ses propres fictions. Il y a une innutrition du théâtre classique et Zola est un auteur parmi d'autres. Hein. Je crois qu'on pourrait le dire de bien des grands écrivains du 19e siècle.
Merci Jean-Yves. Alain, Jean-Sébastien, y a-t-il du nouveau de votre côté sur des messages, des questions, des commentaires? Sinon,
non, rien pour moi.
Oui, sinon voilà, je vais donner la parole à Alain, et puis peut-être pour une dernière remarque, et puis nous pourrons clore le séminaire, s'il n'y a pas de questions supplémentaires.
Non, avant peut-être une dernière question de la part de Jean-Sébastien, vraiment te remercier pour cet éclairage extraordinaire, à la fois sur la chronique, sur Zola et le théâtre, sur Zola, romancier et face à la question du théâtre et de la mise en scène de théâtre. Je crois que vraiment cette conférence nous a beaucoup apporté et nous attendons avec impatience sa publication dans les cahiers naturalistes de l'année prochaine.
Absolument, hein, je relaie ce qu'Alain vient de dire, c'était passionnant et passionnant aussi parce que la mise en perspective en hauteur permettait véritablement d'avoir une réflexion séculaire entre le 19e et le 20e siècle, car on voit bien que tout ne s'arrête pas en 1899, mais qu'il faut penser les choses en amont au 18e siècle et en aval au 20e, bien entendu dans une histoire diachronique, transversale, longitudinale, parce que sinon on aplanit tout. Oui. Voilà, Jean-Sébastien, rien de ton côté, donc... Voilà, écoutez.
J'ai peut-être une chose. J'avais lu très vite nos auteurs dramatiques, mais j'avais lu plus longuement le naturalisme au théâtre. Hein. Mes souvenirs étaient un peu flous, et j'avais surtout gardé l'idée qu'on trouve dans tous les livres. Oui, Zola, bon, c'était un doctrinaire. Et je crois que ce que montre l'étude de nos auteurs dramatiques, et justement, ce n'est pas un doctrinaire, que d'une part, sa perception des succès de l'époque est remarquablement fine et juste. C'est lui qui a raison, et c'est Sarcey qui a raison. Mais en même temps, il est très disponible pour autre chose que du théâtre naturaliste. Il est important quoi, de se repencher sur ce qu'il écrit sur la biche. Parce que si un auteur quand même éloigné de Zola dramaturge, c'est la biche. Mais il a bien vu que c'était le grand auteur de l'époque, que ce n'était pas Sardou, que ce n'était pas Auger ou Dumas-Fils. Je crois qu'il a été très, très, très clairvoyant. Le théâtre des années 1876-1880 était ce qu'il était. Ce n'est pas la faute de Zola, mais je crois qu'il a été très très perspicace, il a su aller contre les plébiscites de la critique et surtout du public. Et il y a chez lui une réflexion très forte sur le succès qui est tout à fait pertinente aujourd'hui. Bon, je regrette qu'il n'y ait pas une critique dramatique qui puisse, comme Zola l'avait fait, démystifier les succès d'aujourd'hui, qui ne sont pas sur le boulevard, et qui sont plutôt dans les grandes institutions du service public décentralisé.
Bon, ben, merci Jean-Yves. Je pense que notre public aura bien compris le message, bien entendu cette nécessité qui est parfois du courage de reconnaître la valeur des œuvres et qu'au fond, les valeurs ne sont pas identiques, même s'il y a des effets de mode, même si le public parfois est au rendez-vous ou ne l'est pas, ça ne suffit pas à faire la valeur littéraire, la valeur artistique, esthétique, émotionnelle d'une œuvre. Et c'est un vaste sujet qui va bien au-delà du théâtre, bien sûr, sur la littérature. Cher Jean-Yves, merci, encore merci pour cette belle conférence. Merci évidemment à tous les internautes qui ont été avec nous pendant cette troisième séance du séminaire Zola. Et je vous dis avec Jean-Sébastien et Alain Pagès, à la prochaine fois.